11 tais-toi sur Nostalgie. Jean-Luc Reichmann.
Et maintenant, eh ben, dernière ligne droite avec des petites questions. Et là, Didier Hervé, avec sa grosse voix, nous dit ça.
11 tais-toi jusqu'à 20h.
Et maintenant, Jean-Luc te pose des questions sans filtre sur Nostalgie.
Alors, les questions sans filtre sur Nostalgie, tu disais que, tu prenais le plaisir sur scène, le temps passe, le plaisir au cinéma, dans les téléfilms, le plaisir en chantant, en écrivant.
Oui.
Le temps s'effiloche, on a eu ici Julien Clerc, Alain Souchon. L'instant présent, l'éphémère, il est présent en toi. Tu as vu toutes ces années passées, tu te dis maintenant objectif, plaisir instantané, comment ça se passe à 60 et quelques années? Enfin, 70 et quelques années.
Non, mais je te dis, je crois que je me suis programmé et je n'ai pas perdu ça. C'est à chaque fois que je monte sur scène, j'ai 18 ans. Quand je suis pour la première fois monté sur scène au Golf Draw pour accompagner Vigon, ou avec mon groupe, le Kingset, où je commençais à être le chanteur du groupe en chantant des trucs de James Brown, de Otis Redding, de Wilson Pickett, de tout le répertoire rhythm and blues et rock. J'avais un tel plaisir, mais bêtement, tu sais, ce plaisir vraiment purement physique, tu vois, de chanter, quoi. D'être avec des copains sur une scène, de chanter avec des gens qui sont devant et qui aiment ça. Et je me suis dit, je ne veux pas perdre ça. Et quel que soit mon âge, eh ben, je ne l'ai pas perdu. Je n'ai pas perdu ce plaisir-là. Et je pense que j'aurai suffisamment de vigilance pour me rendre compte si cette chose-là, c'est-à-dire cet enthousiasme-là que j'ai à faire, à écrire, à chanter, à jouer la comédie, etc., si cette chose-là s'en va, j'espère, mais je pense que j'aurai suffisamment de perspicacité pour le sentir.
Il faut être quand même armé psychologiquement, physiquement, intellectuellement. Tu te prépares physiquement quand tu pars faire une tournée
Ah ben je fais du saut en hauteur et des
oui c'est ça. Ça
mais c'est tout.
Et oui, j'ai vu qu'Armand Duplantis avait explosé tous les records et toi tu es un peu son coach aussi.
C'est ça, exactement.
Un coach mental.
Tout ça, je fais tout ça, mais c'est pas ça. C'est que ça donne de la force, ça donne de l'énergie. Mm. T'as pas remarqué que beaucoup de gens qui se mettent à la retraite commencent à perdre de leur énergie.
Oui.
C'est un truc d'énergie, quoi.
Oui.
C'est-à-dire que le fait d'être sur une scène, de chanter, de répéter, de jouer la comédie, d'apprendre des textes, tu vois, ça marche. C'est comme un muscle aussi,
Oui.
Ça, la mémoire. Ben, tout ça fait que ça me nourrit, ça m'entretient, j'ai la forme, je suis en bonne santé, Dieu merci, puis voilà. Donc je peux le faire. Et le fait que je puisse le faire fait que ça me renvoie quelque chose de positif et que ça me donne l'énergie dont j'ai besoin. Voilà.
Tu as ressenti des creux de la vague dans ta carrière? Et si oui, en fait, comment tu les as gérés? Tu t'es jeté dans l'écriture? Il y a eu des moments qui étaient plus en délicatesse. Tu disais que tu avais toujours chanté.
Oui,
et
toujours.
Après cette énorme popularité des années 70-80, il y a eu des essoufflements. Ça t'a marqué?
Non, j'ai pas eu des essoufflements, moi.
Pas de frustration,
rien. Non, j'ai eu aucune frustration. J'ai pas eu d'essoufflement dans mon écriture et dans mon besoin et mon plaisir d'écrire d'être sur une scène. Il y a peut-être eu des moments où mes chansons passaient moins à la radio ou ces choses-là. Mmh. Mais ça ne m'empêchait pas de... Tu sais, c'est quoi le succès? C'est une voix qui te murmure à l'oreille, tu peux continuer. Tu peux faire ton travail. C'est ça le vrai succès. C'est pas un tube qui arrive aux deux maximum. Donc ce truc-là, je l'ai toujours eu. J'ai toujours pu. Je peux vivre de mon métier depuis toujours. Les moments où j'aurais pu avoir des doutes, c'est au tout début, où les gens me décourageaient, où les gens me disaient... Non, faut peut-être que tu fasses autre chose parce que... Et là, dans ma tête, et c'est là où c'est la force de la conviction, je me disais, ils savent pas. C'est ça que je vais faire. Je ferai jamais rien d'autre dans ma vie. Cette histoire-là, elle peut renverser toutes les barrières. C'est pas seulement dans la chanson. Je sais pas si tu as remarqué ça. Toi, je suis sûr que tu l'as remarqué. Quand tu as un but et que tu n'as mais absolument aucun doute, même ça touche même le corps. J'ai lu des interviews de gens qui étaient condamnés, par exemple, par la médecine, etc., et qui se sont dit « Comment ça, il me dit que je ne marcherai plus ?» C'est pas vrai, je marcherai. Il y a une force en nous et dont le moyen, c'est justement cette intime conviction que tu vas arriver à tes fins. Moi, j'avais ça, et ça, c'est la première... Un jour, une actrice me dit « Tu crois que je vais réussir ?» Je lui ai dit non. Elle a fondu en larmes. Je dis, tu comprends que si tu me poses cette question et que si j'arrive à te décourager, c'est qu'il y a un problème.
C'est extraordinaire.
Ben, c'est vrai.
Tu lui as ruiné sa vie.
Non. Non, 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 non.
Tu lui as donné
de la
force.
Non, elle a fait, elle a continué. Et c'était pour lui dire que si t'as pas,
il faut se forger cette flamme, bien évidemment.
Quels que soient les découragements autour,
oui,
tu pourras pas y arriver.
Oui, toi, en ton fort intérieur, tu savais
je
et
savais.
Tu sais que de toute manière.
Aucun doute. Ouais. Attention, parce que tu peux avoir des doutes qui sont même des fois presque inconscients. Tu vois, des choses qui te disent, mais attends, qu'est-ce que tu crois là? Qu'est-ce que tu racontes? Mais non. Non, aucun doute.
Tu es troublé par les réseaux sociaux, tout ce qui se passe, cette
ouais, d'un seul coup, un peu...
d'un seul coup, ça s'enflamme pour
ouais,
rien du tout.
Ça s'enflamme pour rien, ça fait des croyances fausses, ça fait des complotismes, ça fait des choses, ça fait des déchirures dans les familles, ça fait des trucs. Oui, je trouve ça un peu dangereux. Voilà, c'est toujours la même histoire. C'est comme l'intelligence artificielle. C'est au service de quoi? C'est au service de qui? Et qui s'en sert? Et dans quelle intention? Et quelles sont les valeurs que ça transporte, tout ça? Tu vois, c'est ça qui compte.
Ben disons qu'il n'y a plus cette notion d'effort chez les jeunes, puisque c'est
exactement
l'information.
Alors,
qui vient à eux.
Voilà, ça c'est ça. On connaît ces fameuses photos où dans un musée, tu as 15 mômes qui regardent leur portable au lieu de regarder les tableaux qui sont sur le mur.
Oui.
Mais c'est vrai que les mômes, ils sont maintenant sur les... Il faut lire, quoi. Moi, je le dis sur scène, je dis, attention, faites gaffe, on va devenir quoi? Ça va être quoi, la génération future? On va être courbé comme ça, parce qu'on garde nos portables. Le cerveau va rétrécir, forcément, parce qu'il va...
On va plus avoir de coups, ça, c'est les 100 coups.
On va plus avoir de coups.
Les 100 coups.
Le cerveau va rétrécir, ouais, à cause de l'intelligence artificielle, avec tout ça. Moi, je leur dis, mais parlez à votre voisin, promenez-vous dans les bois, regardez le ciel... Et puis lisez.
Mais ouais, ouais, mais là, ça demande un effort. Je suis désolé pour les enfants.
Ben ouais, mais c'est peut-être une question d'éducation et de.
Ah bah ça, on
en
est persuadé.
Parents qui peuvent dire arrête avec tes images, ton portable, ton machin. 5 minutes, oui, mais prends un bouquin.
Non, mais le coût de la transmission est très, très important.
Ah oui.
Je te sais très, très engagé, évidemment, pour de nombreuses causes, comme un pour tous et tous pour l'autisme.
Oui.
Tu as vu le petit truc en plus ou pas d'Arthus?
Non, j'ai pas vu.
Il faut vraiment que tu
le
regardes.
Je sais, je vais
le
voir.
Parce que c'est. À aujourd'hui, il y a eu quand même, par rapport à toutes ces différences, des pas progressivement qui se font pour l'ouverture.
Bien sûr.
Et toi, ce petit message sur la différence, tu l'as toujours prôné. Hein.
Que je pense que c'est la seule façon, c'est la seule issue pour l'humanité de survivre.
Mm-hmm.
C'est ça l'histoire. C'est-à-dire que. Tu vois, on est dans des temps de guerre en ce moment.
Oui.
Mais tout le monde se bat. Il n'y a pas seulement que les soldats qui se battent. C'est-à-dire, quand on n'est pas dans un pays sous les bombes, etc., on combat nous-mêmes nos propres démons. Et nos démons, c'est quoi? C'est pas seulement les terroristes, c'est l'égoïsme, c'est le manque d'intérêt pour les autres, c'est le racisme, l'antisémitisme, etc. Et donc, c'est la fraternité, le vrai combat.
C'est
la fratrie. Moi, j'ai parlé souvent de ça parce que quand j'allais à l'école communale, quand j'étais môme, Le cours commençait toujours avec le petit cours de morale. C'est bizarre, là, mais je me rappelle de ça. Ça m'avait marqué parce que le prof nous disait... Et ça enseignait quoi? L'acceptation de l'autre et la vraie fraternité.
Nous avions également le civisme et l'éducation
mais
civique.
Oui, c'est de ça dont je parle, bien
mais
sûr.
Oui, oui, bien sûr. Voilà. Et l'éducation civique, c'était tout
et
simplement
puis on
le
était
petit
en...
geste du
de
bonjour.
Petit geste
et Dieu merci.
Et on était tous en blouse grise, et il y avait des juifs, il y avait des catholiques, il y avait des musulmans, il y avait des noirs, des jaunes, on était en blouse grise, et on jouait ensemble dans la cour.
Ouais, je dois t'avouer que j'ai une petite pensée pour l'école Saint-Joseph de Toulouse, où j'étais de la 6e à la terminale, et après, j'ai passé mon bac à Sainte-Marie-des-Champs. Effectivement, on était tous de n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur.
Si t'as passé ton bac, t'as eu de la chance, parce que moi, à la 6e, ça a été 4 années merveilleuses.
Eh ben oui. Écoute, c'est un bonheur.
On se tutoie sur Nostalgie. Avec Jean-Luc Reichmann. Tous les vendredis soirs, 19h-20h. Et à tout moment en podcast sur l'appli Nostalgie.